Habemus Papam.
Deux ans tout juste après la mort de Léon X, c'est son cousin Germain, un autre Médicis, qui monte sur le trône de Saint-Pierre, sous le nom de Clément VII. Franck Labrasca, professeur au Centre d'études supérieures de la Renaissance de l'Université François Rabelais de Tours, nous en parle.
C'était le fils de Julien de Médicis, le frère de Laurent le Magnifique, qui malheureusement avait été assassiné dans des circonstances tragiques. Et donc son fils, qui s'appelle Jules à l'époque, va être élevé, évidemment, traité au fond comme s'il était le propre fils du Magnifique. Il va bénéficier de ce milieu extrêmement brillant de la cour des Médicis. C'est peut-être un peu anecdotique, mais il était très avantageux de sa personne. C'était aussi un très grand humaniste, un homme cultivé, mais aussi un grand musicien. Il avait une aptitude et un goût d'ailleurs pour la musique. Là aussi, il n'est pas forcément dans l'apanage qu'on pourrait attendre d'un homme d'église.
Il est par ailleurs doué pour la finance, un talent fort utile à une époque où la papauté semble en permanence courir après les fonds.
Son domaine de prédilection, c'était plutôt le domaine de l'économie et des finances. Les Médicis étaient, vous savez, une grande famille de banquiers et de commerçants. Mais tout le monde dans la famille n'avait pas la bosse du commerce. Et c'est quelque chose à remarquer, c'est-à-dire à la fois quelqu'un très humaniste et en même temps quelqu'un qui a le sens pratique, qui est l'héritier au fond de ce sens commercial qui a été la principale raison de l'ascension de la famille des Médicis. Quand il va devenir pape, cette aptitude va continuer. Le grand point, disons, faible des papes de la Renaissance, mais ça les concerne tous, c'est les finances, parce qu'évidemment, ils dépensent beaucoup. Le mécénat de Jules II, les fêtes, le goût des fêtes, etc., de Léon X, tout ça, évidemment, ce n'est pas gratuit. Ça demande, évidemment, des sommes colossales. Et ensuite, évidemment, il faut bien essayer de remplir les caisses à nouveau. Et donc, c'est tout cet aspect-là dans lequel Clément VII a véritablement excellé.
En revanche, comme son cousin Léon X, Clément VII ne semble pas prendre la mesure de la crise protestante.
Là, quand même, la querelle religieuse s'envenime. Ce n'est plus simplement un petit moine comme ça, isolé, qui proteste. Ça se généralise dans l'Europe, ça s'étend. Au sein même des réformés, il y a des extrémistes, si on peut dire. Il y a des courants qui veulent pousser encore plus loin que Luther, la contestation de l'Église romaine. Certains l'associent même à l'Antéchrist, à la bête de l'Apocalypse, enfin que sais-je. On n'est plus dans un conflit ordinaire. D'autant plus qu'à cela, évidemment, se mêlent divers princes, notamment les princes allemands qui épousent la réforme. Ça aurait exigé, du point de vue de la papauté, que l'on y consacre beaucoup plus d'activité. Or, on a l'impression que Clément VII ne prend pas vraiiment la mesure de la chose. Il faudra attendre Paul III, c'est-à-dire son successeur, Alexandre Farnèse, pour que là, enfin, on rentre dans le vif du sujet.
Incontestablement brillant, Clément VII se perd en tergiversation.
C'est ce qu'un poète de l'époque, qui s'appelait le Francesco Berni, avait reproché dans une épigramme contre Clément VII. Il disait, c'est un pontificat composé uniquement de considérations, de discours, de « en plus », de « ensuite », de « mais », de « si », de « peut-être », de « pourtant » et de tant de paroles qui n'ont aucun effet. Bien sûr, on est dans la satire, donc la satire, ça implique toujours une exagération, on grossit le trait, mais c'est quand même révélateur. Face à deux grandes personnalités, Clément VII s'est trouvé confronté à deux colosses, d'un par François Ier et de l'autre Charles Quint. Alors évidemment, entre ces deux personnages, il ne fallait pas se montrer irrésolu.
Pris en tenaille entre les deux souverains, Clément VII va choisir François Ier.
Clément VII a été fidèle à l'alliance avec la France, parce que traditionnellement, les Médicis étaient plutôt favorables à la France et avaient eu plutôt tendance à favoriser les incursions françaises en Italie. Et dans les premiers temps de son pontificat, Clément VII a continué cette politique d'alliance et a soutenu la France, a soutenu donc François Ier. Mais évidemment, les choses vont changer à partir de 1525, parce que 1525, c'est la très grave défaite de Pavie. Une défaite terrible parce que François Ier est fait prisonnier. Il est emmené en captivité à Madrid. Alors, Clément VII a beaucoup tergiversé à partir de là. Il a essayé diverses solutions. Puis finalement, il a choisi la plus mauvaise. C'est-à-dire que, alors que François Ier, pour obtenir sa liberté, avait promis de ne pas reprendre les hostilités contre l'Espagne, il a monté une ligue anti-espagnole, la Ligue de Cognac, à laquelle Clément VII a fini par se rallier.
Et c'est ce choix qui est à l'origine de l'un des événements les plus dramatiques de l'époque, le sac de Rome, le 5 mai 1527.
Charles Quint, quand il a appris cette trahison, est entré dans une fureur homérique et il a décidé d'infliger à Clément VII un châtiment véritablement exemplaire. Il a lancé ses lansquenets. Les lansquenets, c'était des troupes d'élite de l'armée de Charles Quint qui étaient constituées en général de soldats, mais c'était des soldats qui étaient des gibiers de potence, hein, c'est-à-dire des criminels ou des assassins, des voleurs qu'on tirait de prison, qu'on libérait à condition évidemment qu'ils deviennent des tueurs au service de l'armée qui les engageait. Hein. En plus, une partie de ces lansquenets étaient des protestants, évidemment, ils avaient de bonnes raisons pour haïr Rome. Donc il a lancé ses troupes sur Rome, donc le 5 mai 1527. Pendant quelques jours, ça a été vraiment effroyable. Hein. D'ailleurs, ça a été un choc pour toute la chrétienté, parce que, à tort ou à raison, on estimait que la ville de Rome, étant donné son statut, son passé, était en quelque sorte un sanctuaire, quelque chose d'inviolable. Et là, pendant une semaine, pratiquement, on a eu des pillages, des meurtres, des viols, enfin tout ce qui peut se produire, évidemment, quand une troupe avinée, excitée, est lancée sur une ville. Le pape lui-même a été assiégé dans le château Saint-Ange, obligé de lutter pour sa vie.
Charles Quint et Clément VII vont finalement se réconcilier 2 ans plus tard. Et en 1530, Clément VII va couronner Charles Quint empereur. Mais il n'a pas fini d'avoir des problèmes avec les grands d'Europe. Quelques temps plus tard, il se heurte à Henri VIII, désireux de divorcer de Catherine d'Aragon.
Petit à petit, Henri VIII a revendiqué les prérogatives royales aussi en matière religieuse. Et donc ça a été, disons, les prémices du schisme anglican.
Clément VII va mourir en 1534, après 11 ans de règne. C'était Franck Labrasca, professeur au Centre d'études supérieures de la Renaissance, qui nous en parlait.